Avant même les concerts de Nouvel An que donneront les orchestres d'ici, Orchestre Dijon-Bourgogne, Orchestre Victor Hugo, le National, l'un des deux orchestres de Radio France en concert, ce mardi dans l'auditorium de l'Opéra de Dijon, avec vous, Thibaut Guersin, vous serez là avec bien sûr votre guitare. La dernière fois qu'on vous a vu à Dijon, c'était l'an passé, mais là, il ne s'agissait pas de jouer de la musique, il s'agissait de parler de l'enseignement de la guitare.
J'étais à Dijon en tant que professeur de l'ISDAT, du Pôle Sup à Toulouse, avec mes étudiants, parce que Olivier Pellemoine, qui est professeur au Pôle Sup de Dijon, a continué la tradition des guitaristes maintenant lancée de se retrouver chaque année ou tous les deux ans avec toutes les classes, les professeurs et les étudiants des écoles supérieures, et pour discuter un peu aussi de l'avenir des étudiants et échanger entre professeurs pour voir ce qu'on peut imaginer ensemble.
On va évidemment parler du concert de mardi, mais comment va cet enseignement de la guitare ?
Mais l'enseignement de la guitare va très très bien, parce qu'il se trouve que maintenant, avec l'épaule supérieure, il y a quand même pas mal de classes en France, alors que moi, quand je suis rentré au conservatoire en 2011, par exemple, il n'y avait que le CNSM. Donc, il n'y avait que 16 étudiants en supérieur pour les 5 années licence master. Donc, l'enseignement se porte bien, on a de plus en plus de guitaristes, et surtout, j'ai l'impression que on se rend compte aujourd'hui que faire de la musique, c'est pas seulement être un soliste, c'est aussi être un chambriste, quelqu'un qui fait des créations. Et des profils qui seraient plus enclins à faire de la musique de chambre, aujourd'hui, ont peut-être plus la possibilité d'en faire leur métier, alors qu'à une certaine époque, on imaginait qu'être guitariste, c'était seulement être un soliste.
Parce que le prof se nourrit du soliste, un peu vedette quand même, il faut le dire, et inversement.
Mais c'est toujours important. Moi, j'aime bien les deux pans. Après, je suis vraiment mon métier, c'est d'être soliste, d'être concertiste. Mais ce que j'aime dans le fait de donner des cours et des masterclass, c'est le fait que quand même, vous êtes obligé de conscientiser des choses, théoriser des choses dans votre pratique pour pouvoir la transmettre. Et donc, ça nous fait aussi des piqûres de rappel à nous-mêmes. Quand on entend des étudiants qui finalement ont des écueils que nous, on peut partager et qu'on leur fait des retours là-dessus, parfois, on se dit « Ah tiens, est-ce que demain matin, je ne commencerai pas par faire cet exercice ou par travailler de cette façon-là » Donc, c'est toujours, toujours intéressant, je trouve, de théoriser, conscientiser et avoir une conscience de comment on travaille. Honnêtement, c'est nécessaire. Un artiste qui ne travaille plus, c'est un artiste qui est mort. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. De temps en temps, il y a des périodes où on travaille moins bien que d'autres. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se reprendre en main et se dire « Non, là, je vais recadrer mon travail, mes objectifs. » Telle ou telle pièce, tel ou tel exercice. Je pense que c'est très, très important pour continuer, d'une part, avoir un bon niveau et puis à avancer. J'ai 31 ans, je suis encore un très, très jeune artiste et je suis admiratif de ces artistes qui ont une carrière très, très longue et qui continuent à être meilleurs à chaque fois.
Et est-ce qu'on reste admiratif alors de ces figures légendaires, alors qu'ils ne jouent plus et pour cause maintenant, mais que sont la Goya ou d'autres ?
Bien sûr, mais c'est des gens que je parlais des carrières longues, ça peut être chez les guitaristes, chez les pianistes. D'ailleurs, j'ai l'impression, quand je vois un peu les profils, que c'est plus compliqué d'avoir des guitaristes qui jouent encore très bien à 70-80 ans que des pianistes. Je ne sais pas si c'est lié à l'instrument, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Quand je vois des artistes, par exemple, Murray Perraia, Martha Argerich, quand vous écoutez ces musiciens, c'est quand même extraordinaire d'entendre ce niveau à la fois de maturité incroyable et ce niveau technique qui est encore présent. Et pour vous dire quelque chose, moi j'aurais rêvé d'entendre André Segovia, par exemple, à 90 ans, jouer de la guitare. Ça m'aurait fait rêver. Mais j'ai eu la chance d'entendre Menahem Pressler jouer une mazurka de Chopin lors d'une émission. J'étais au premier rang et Quand vous l'entendiez, je sais plus quel âge il avait à cette époque, c'était il y a quelques années, on sent le poids de la vie, on sent la maturité, et je me suis dit en l'écoutant, évidemment, ça peut pas être quelqu'un de jeune qui joue comme ça. Il y a quelque chose dans son toucher qui fait qu'on peut pas avoir 30 ans et jouer comme ça.
La rencontre avec un orchestre, c'est une remise en cause. Là, la rencontre avec l'Orchestre national de France, ce sera une première?
C'est une première pour moi avec, avec l'Orchestre national de France. Je suis très très heureux de faire cette tournée du Nouvel An avec eux. Et c'est vrai que la rencontre avec un orchestre, ben c'est comme la rencontre avec un artiste, parce que bon, l'orchestre, c'est une entité, même si vous avez beaucoup de musiciens qui le composent, ça, c'est une entité. Puis il y a le chef aussi. C'est une relation à trois, l'orchestre, le chef et le soliste. La première répétition est toujours importante, par exemple, parce que la première répétition, c'est faire connaissance. C'est prendre connaissance du son de l'autre, de l'inflexion de l'autre, du phrasé de l'autre. Et je trouve que quand on arrive dans une répétition pour la première fois, on se regarde, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment on va se trouver. Il y a des orchestres, par exemple, où de suite, avec les vents, ça match tout de suite et c'est plus compliqué au niveau du son avec les cordes, au niveau de l'équilibre, parfois inversement. Et c'est quelque chose, pendant la première répétition, généralement, qui se trouve assez vite, hein, parce que le chef voit de suite sur quoi il faut travailler. Et pour vous donner même un petit exemple de comment j'aime rencontrer les orchestres, quand je fais les premières répétitions, j'adore répéter face à l'orchestre, toujours. Parfois, on nous pose la question, est-ce que vous voulez répéter en format concert ? Moi, je dis toujours, la première, je veux la faire face à l'orchestre, parce que je veux voir les musiciens, je veux les sentir et je veux qu'on joue ensemble. Parce que c'est quand même bizarre, je trouve, de jouer et de rencontrer quelqu'un de dos.
Le chef d'orchestre, comme vous, a ses options. Là, on va parler du concerto d'Aranjuez que vous viendrez jouer avec le National. Yute Casado, qui dirigera l'orchestre, a probablement sa conception de l'œuvre et vous la vôtre, d'autant plus que c'est une œuvre qui vous poursuit depuis l'enfance quasiment.
Ça, c'est très très vrai. Il a probablement lui aussi joué avec d'autres guitaristes auparavant. Donc, on a tous les deux une vision. Après, ce qui est chouette dans le concerto la plupart du temps, c'est que dans un concert symphonique, le chef, quelque part, a tout le concert pour exprimer sa vision des œuvres. Et puis, le concerto, c'est un peu le moment du soliste. Donc, j'ai envie de dire que souvent, les bons chefs ont tendance à respecter la vision du soliste. Et après, on en discute pendant la répétition. Hein. Il y a des... Moi, je suis justement très ouvert à la proposition. C'est comme de la musique de chambre.
Alors, on entendra aussi, effectivement, l'orchestre sans vous, Rimsky-Korsakov, avec le célèbre capricieux espagnol. On entendra, évidemment, Bizet, la suite de l'Arlésienne, entre autres. Une Maria Rodrigo, qui est évidemment moins connue que le Rodrigo du concerto d'Aranjuez. Vous jetez un coup d'œil tout de même sur le reste du programme pour préparer le concert. Ça vous est utile ou c'est autre chose?
C'est de la curiosité de savoir ce qui se joue. Et d'ailleurs, pour vous dire, moi, ce que j'aime, c'est à chaque fois, on nous pose la question parfois, bon, après le concerto, tu veux t'en aller? Je ne comprends pas ça. Moi, je vais toujours écouter le concert de l'orchestre une fois que j'ai joué mon concerto.
Et après le concert, on nous dit que vous irez à la rencontre du public pour dédicacer vos disques.
Et oui, c'est toujours un plaisir de rencontrer le public parce que quand même, on fait cette musique...
On n'a pas le temps de parler quand même.
J'aime bien prendre le temps quand même quand les gens ont des choses à vous dire. Les gens sont là. On partage un moment quand même. On partage un moment qui est spécial, qui est unique. Et le concert qui aura à Dijon ce jour-là, ça n'aura pas été le même que le concert à Paris, qui n'aura pas été le même que le concert à 7 juste après. Et donc, moi, j'aime cette magie du moment où on rencontre les gens. Et c'est toujours assez émouvant parce que, vous savez, les gens, ils ont aussi des histoires parfois avec les œuvres. Donc, il peut y avoir des témoignages, il peut y avoir des commentaires, il peut y avoir plein de choses très, très belles après les concerts.
Quand on aborde une œuvre aussi célèbre que le concerto d'Aranjuez, justement, que le public est censé quand même connaître relativement bien, particulièrement le deuxième mouvement, est-ce qu'on attend justement ou est-ce qu'on redoute un peu certaines observations, critiques ou un ressenti différent ?
Je pense qu'il ne faut pas demander la permission aux gens de jouer ce qu'on a envie de jouer et comment on a envie de le jouer. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que quand je joue, je ne me demande pas si les gens pensent que c'est bien. Si je le joue, c'est que je suis convaincu de ma vision des choses et je pense qu'on ne peut être convaincant qu'en étant convaincu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai que c'est une œuvre très, très connue qui a été jouée et rejouée. Mais pour être tout à fait honnête...
Même le monde des variétés s'en est emparé il y a quelques années.
Oui, bah bien sûr, c'est vrai, il y a eu Richard Anthony. Avant, il y a quand même Miles Davis qui a marqué le monde entier avec sa version, Spain. Mais même si cette œuvre est très, très connue, si vous voulez, moi, je ne m'en lasse pas. Et à la jouer, à l'entendre, je ne m'en lasse jamais, alors que je commence à l'avoir joué pas mal. Après, c'est quelque chose de très personnel aussi. Je vous parlais tout à l'heure des histoires que les gens peuvent avoir avec les œuvres. Il se trouve que cette œuvre-là, moi, en tout cas, le deuxième mouvement, ça a été la musique qui était à l'enterrement de ma grand-mère. Et donc, il y a quelque chose qui est gravé et qui est associé à elle pour toujours, en fait. Et c'est ça qui fait que, à chaque fois, je pense à elle. Et ça ne changera jamais.
Est-ce qu'on se pose la question de savoir ce qu'on peut encore apporter à l'œuvre? Je déteste le mot de tube, mais je vais oser.
Il faut rester frais dans sa vision des choses, ça c'est important, mais il ne faut pas vouloir apporter quelque chose de manière prétentieuse, en se disant, moi, je vais apporter quelque chose à cette œuvre-là. C'est une posture qui est un peu déplacée, mal placée. Par contre, le fait d'avoir de la fraîcheur, c'est important. Et pour avoir de la fraîcheur, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut continuer à travailler, parce que c'est en travaillant qu'on a de nouvelles idées, en se posant des questions. Et une fois qu'on a fait ce travail, il y a quand même quelque chose qui est magique dans le concert, dans le spectacle vivant, c'est la magie du moment. Et la magie du moment, elle va se passer parce que une acoustique va procurer une façon de jouer différente, ou parce que l'orchestre, ce jour-là, va avoir un son qui va vous porter, ou justement une relation qui va être plus conflictuelle, j'en sais rien, je veux dire musicalement. Parfois, l'orchestre, ça peut être une machine sur laquelle on surfe ou contre laquelle on se bat à certains moments. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc tout peut se passer aussi sur le moment, et c'est ça que moi j'aime, c'est que je sais comment j'imagine le concerto de la Rouesse, mais je ne sais pas exactement comment je vais le jouer à Dijon encore.
On s'autorise des choses.
Il faut toujours s'autoriser des choses, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut s'autoriser. En tant que musicien, je trouve que se censurer, c'est grave, c'est dommage. Donc il faut en effet se laisser porter. Ça peut être, j'en sais rien, dans le deuxième mouvement, par exemple, on peut imaginer que c'est quelque chose qui est ornementé, ça peut être joué avec ça.
J'ouvre une parenthèse, Thibaut Garcia. Ce qui ponctue notre conversation, c'est un enregistrement que vous avez fait avec l'orchestre de chez vous, avec l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Blake Glasberg. Est-ce que vous n'êtes pas un peu tenu maintenant tout de même par cette version-là, qui est relativement ornementée?
Alors ça, vous me le direz après le concert à Dijon. Une fois que vous l'aurez entendu, pour voir si c'est le cas, je crois pas. Si vous voulez, en enregistrement, c'est toujours un moment, c'est un instant T, on a enregistré ça à ce moment-là, mais les choses, elles changent, et je crois justement que quand on est en concert, on n'est pas en disque. Moi, mon but quand je fais un concert, c'est pas de réécouter mon album. Personnellement, c'est un album que j'écoute pas souvent. J'ai mon souvenir de ça, mais s'il le faut, je l'ai déjà un petit peu déformé d'ailleurs.
L'Orchestre National de France en concert sous la direction de Yuteka Sado, ce mardi dans l'auditorium de l'Opéra de Dijon, avec donc Thibaut Garcia en soliste. Je crois savoir qu'il n'y a quasiment plus de place. On met les liens sur le site de BFC Classique.